Vous êtes sur RTL.
On refait la télé.
On refait la télé.
Présenté par Jade et Eric Dussard
sur RTL.
Bonjour à tous, bonjour Jade.
Bonjour Eric, bonjour tout le monde.
J-1 avant le premier tour de la présidentielle. On va donc consacrer cette émission aux grands spécialistes du show à la télévision, les politiques. Avec nous, deux journalistes qui les pratiquent depuis des années, alors qu'à leur début, elles avaient plutôt pour spécialité l'automobile. Et la première faisait des reportages sur les taxis.
Pour préserver les recettes, cette boîte noire a été proposée. Le taxi verse le montant de sa course. Fermée à clé et fixée par une ventouse, elle est jugée inviolable.
Et la seconde posait des questions aux autostoppeurs.
Alors, est-ce qu'il y a des endroits qui sont meilleurs que d'autres quand on veut faire du stop? Par exemple, est-ce que l'entrée d'une autoroute, c'est bien? Est-ce qu'il y a une tenue idéale pour faire du stop? Est-ce qu'il faut être habillé très correctement ou pas?
Bonjour Arlette Chabot et Nathalie Sacric.
Bonjour.
J'ai comme l'impression que vous ne vous souveniez pas forcément de ce qu'on vient d'entendre. Hein. C'était au tout début.
Moi, je pense que c'était à la 5.
Ouais, exactement.
Et que comme on n'avait pas assez d'argent pour pouvoir avoir une spécialité, ça m'est même arrivé de faire un reportage sur les koalas et sur et donner la météo. Oh,
quelle chance. C'est pas mal. Et vous, l'autostop, donc, Arlette Chabot?
Alors, ça, j'avais aussi un peu oublié. Pardon,
vous n'êtes pas venu en stop ici ce matin à RTL?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai aucun souvenir de ça. Mais c'était des questions intéressantes.
Faut bien commencer. Ah bah,
oui.
Une passion commune pour les voitures, donc, mais aussi pour la politique. D'ailleurs, on ne vous présente pas, vous connaissez très bien. Vous avez travaillé ensemble pendant des années.
Un peu, c'est un peu les vampes là, les vampes de la politique, ça fait 20 ans qu'on fait ça, 30 ans, ouais. 40, bon peut-être pas 40, mais beaucoup.
Alors merci d'être avec nous, merci beaucoup d'être avec nous en cette veille de premier tour de la présidentielle. Arlette Chabot, vous nous la ferez vivre sur LCI et vous, Nathalie Saint-Cricq, sur France 2. Ça reste toujours un moment aussi grisant pour vous, ces grandes soirées électorales?
Grisant, c'est peut-être un peu fort. Un petit peu excitant et probablement cette année un petit peu moins que d'habitude. Non, ce qui est marrant, ce qui est très marrant, c'est la tranche 19h30-20h où on commence à voir les estimations. On ne peut pas les donner, donc on doit parler un peu pour ne rien dire, mais tout en laissant entendre qu'il va se passer des choses. Et qu'il y a toujours un petit moment où on se dit, et si c'était autrement, et si les coupes se croisaient, voilà.
Cette élection, ainsi que les précédentes, on va en parler jusqu'à midi et demi avec une contrainte, et pas des moindres. Comme nous sommes à moins de 24 heures du scrutin, la loi nous interdit de citer les noms de candidats en lice demain. C'est ce qu'on appelle la période de réserve. Franchement, c'est pas devenu un peu obsolète, cette loi qui concerne radio et télé, alors qu'on dit ce qu'on veut sur Internet et sur les réseaux sociaux?
Mais tout est ridicule, ces règles ont été faites, quoi. C'était l'ORTF, trois chaînes de télévision. Plus c'était ouvert, plus les règles, au contraire, ont refermé, si bien qu'on arrive toujours à un paradoxe incroyable en France, c'est que plus on se rapproche du jour de l'élection, moins on peut faire de travail journalistique concernant la campagne, plus on est dans les contraintes, donc c'est absolument paradoxal. Ça, c'est complètement idiot.
Et donc, il faut tout revoir.
Mais évidemment qu'il faut tout revoir, mais ça fait des années. Et en plus, les réseaux sociaux, évidemment... Tout ce qui est sur le numérique, open bar. Donc, franchement, tout ça n'a aucun sens.
C'est le seul pays où ça se passe comme ça.
Voilà, et pour exactement. Vous, journalistes, c'est vraiment pas pratique du tout.
Non, hein. Mais ça vient. C'est c'est ridicule. Même pour la France, enfin, franchement, pour ce pays, d'avoir des règles aussi contraignantes, où à la fin, on est à. Attends, arrête, vite. Oh là là, il n'y a plus de 30 secondes sur lui. Non, stop. Non, mais attendez, c'est
impossible de
fou.
Bosser, vous le confirmez, Nathalie Saint-Cricq.
Oui, en plus, quand on pose des questions, imaginons qu'on doit faire un quart d'heure la dernière semaine avec chacun des candidats. Vous en arrivez à questionner certains qui sont. Diront à 1 ou à moins de 1 en leur disant vous, président de la République, est-ce que vous sortirez de l'OTAN?
Alors,
et en général, la personne en face dit, mais je sais très bien que je ne serai jamais président de la République. Donc, si vous voulez, cette réponse, je l'ai entendue. On ne peut pas faire des choses pareilles.
Mais ouais.
Ce dont on a le droit de parler avec vous ce matin, eh bien, c'est de vous, précisément, Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cricq.
Voilà.
On va aussi revenir sur vos carrières. On va commencer avec un petit jeu pour voir si vous connaissez si bien que ça.
Archives ou archifaux?
Arlette Chabot, à vous de nous dire si ce qu'on affirme sur Nathalie Saint-Cricq est vrai et inversement.
Nathalie Saint-Cricq, dans l'impossibilité de lire ses notes lors d'un duplex, vous pensez que c'est une archive ou que c'est archifaux, Arlette Chabot? Est-ce qu'on l'a, à votre avis? Eh bien si, on l'a. C'est une archive et c'était sur la 5.
Merde, je crache sur mon papier, ça déteint.
Et oui. Vous ne vous souvenez pas de ça?
C'est triché, c'est pas vrai ça.
C'est triché, c'est très chic.
Quand je vous dis qu'on a des fiches.
Tout ça pour dire que faire de l'antenne, c'était pas du tout votre truc au départ, Nathalie Saint-Cricq. À l'inverse, même, vous n'êtes jamais battue pour apparaître à l'écran, contrairement à d'autres. Hein.
Non, j'aime pas la télé. Enfin, j'aime pas la télé. J'aimais pas spécialement la télé. J'ai pas de photos chez moi, sauf de mes enfants ou de mes parents. J'aime pas ça, parce que je trouve qu'on attache une importance extrême à des choses un peu secondaires, comme la tête qu'on a, voilà. Et je n'ai pas du tout... Je suis rentrée là où il y avait de la place. Quand j'ai cherché du boulot, là, il y avait de la place à la 5. On recrutait, je suis allée à la 5. Entre-temps, j'ai essayé de travailler dans la presse écrite. Et après, travaillant à la télé, j'ai travaillé comme rédacteur chef des émissions d'Arlette. Mais j'ai pas voulu faire la présentation du matin, parce que je voulais emmener mes enfants à l'école. Je voulais pas faire le 23h parce que j'avais envie d'aller dîner avec des gens.
Ah, vous n'étiez pas de celles qui étaient prêtes à se saigner pour apparaître à tout prix à l'antenne.
Franchement, je vois pas. Enfin, je comprends qu'il y ait des gens qui soient comme ça, mais je veux dire, la notoriété n'est pas. Ou c'est une mauvaise notoriété, c'est-à-dire qu'elle sert à avoir des passe-droits et ça, c'est pas bien, donc on le fait pas. Soit c'est une bonne notoriété, c'est plutôt sympa d'avoir des gens dans la rue qui vous disent bonjour, mais aussi qui vous injurient. Donc,
Ah, ça arrive ça?
Oh oui, je l'ai eu, oui. Je l'ai eu, oh oui. Espèce de salope, oui, oui, oui. Ah oui.
Parce que vous parlez d'un sujet très clivant, la politique.
Parce que j'avais pas été gentille avec Sarkozy.
Et question trop difficile.
Très bien, très chic, avec deux enfants petits. Et je trouvais que cette femme, déjà, employait le mot espèce de salope devant ses enfants, n'était pas d'une distinction extrême. Et je suis restée sans voix.
Archive ou archifaux sur Arlette Chabot.
Nathalie Saint-Cricq, un extrait de télé dans lequel Jacques Chirac dit qu'Arlette Chabot est son intervieweuse préférée. Ça existait ou pas? Archive ou archifaux?
Oh, ça a dû exister avant qu'elle lui pose la question de son retrait. De...
Merci pour la transition,
voilà.
Nathalie Saint-Cricq.
Voilà, c'est exactement ça. Vous voyez où on veut en venir, en fait. Cette fameuse question que vous posez à un Jacques Chirac mal en point dans les sondages lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 1995.
Vous parlez tout à l'heure de votre détermination. Quoi qu'il arrive, j'irai jusqu'au bout dans cette campagne présidentielle, M. Chirac. Vous n'avez pas l'intention de renoncer, vous irez bien jusqu'au bout, c'est la question. C'est vrai que certains s'interrogent.
Vous parlez sérieusement là, ou vous faites de l'humour?
Certains de temps en temps se demandent, de temps en temps, détermination, quoi qu'il arrive, c'est ça?
Écoutez, soyons sérieux, je vous en prie. Merci beaucoup.
Arlette Chabot, quand vous réentendez pour la énième fois cet extrait, vous avez toujours le frisson.
Parce que finalement, ma vie entière se concentre et se résume à une question.
Vous dites que vous en avez un peu marre qu'on vous résume à ça, ce qui est loin d'être le cas. Bien sûr que ça fait partie aussi de votre parcours. Néanmoins, ce qui m'avait frappé, au-delà bien sûr de ce qu'il vous dit, c'est ce regard que vous avez. On lit dans votre regard. Je vais passer un sale quart d'heure à la fin du générique de cette émission. Ça a été le cas ou pas? Ça a été glacial après?
Eh bien, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Donc, ça s'est fait en deux temps. Premier temps, tout le monde était content parce que ça levait une hypothèque. Effectivement, il avait dit qu'il irait jusqu'au bout, alors que tout le monde, la presse, hein, notamment, relayait qui osera dire à Jacques Chirac stop, il faut laisser la place à Édouard Balladur. Donc, ça a été le lendemain formidable. Et puis après, ça s'est gâté dans les jours qui ont suivi. Pourquoi? Parce que quelqu'un, il y a toujours quelqu'un, les entourages, vous savez ce que c'est les entourages, les amis, dit à Jacques Chirac que cette question m'avait été soufflée dans l'oreillette à la fin de l'émission avec l'objectif de le déstabiliser.
Et là, pendant deux ans, il ne vous parle plus?
Il ne me parle pas. Et moi-même, comme je suis un peu lente, au bout d'un an, quelqu'un m'a dit « c'est normal qu'il ne te parle pas après ce que tu lui as fait ». Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Rien du tout.
On ne peut pas vous accuser en plus en 95 d'avoir roulé pour Édouard Balladur. Il faut se souvenir également de cet autre extrait de télé. Hein.
Je souhaiterais un débat pour qu'ils soient informés des problèmes de l'avenir, des problèmes qui se posent à eux.
Mais sur une formule un peu familière, pardonnez-moi, est-ce que Balamou n'est pas devenu Bala trop dur en quelques jours?
Bon, écoutez, je vous laisse votre formule.
Et là encore, grosse ambiance sur le plateau. Nathalie Saint-Cricq, Arlette Chabot, vous avez toutes les deux eu l'honneur ou l'horreur, c'est selon, de présenter le fameux débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. On en parle dans un instant, à tout de suite.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
On fait la télé spéciale présidentielle ce matin avec Nathalie Saint-Cricq et Arlette Chabot. On va maintenant parler du fameux débat de l'entre-deux-tours. On sait que cette année, il aura lieu le 20 avril.
Oui, un face-à-face que vous avez toutes les deux présenté. Arlette Chabot, c'était en 2007. Et vous, Nathalie Saint-Cricq, le dernier en date, en 2017.
Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir Nathalie et bonsoir à tous. Bienvenue pour ce débat de l'entre-deux-tours.
Alors notre rôle sera de veiller sur la stricte égalité de votre temps de parole et également à l'équité de vos échanges.
Vous levez les yeux au ciel quand vous réentendez cet extrait du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2017, Nathalie Saint-Cricq. Est-ce que ça reste un bon souvenir ou pas pour finir?
Alors ça reste un bon souvenir, oui, parce que c'est tellement excitant. Même si on ne sert pas à grand-chose, d'être là plutôt que de le regarder à la télé dans son salon en mangeant des chips. Donc ça, c'est bien.
Des gens ont fait le décompte. Hein. Sur les 2h34 du débat, on vous a entendu 7 minutes.
Ouais.
Ce qui est déjà 3 de plus, je crois, que Christophe Jakubisine qui était à vos côtés. Une discrétion, pour ne pas dire une absence, telle que sur les réseaux sociaux, certains avaient lancé une alerte enlèvement pour demander où vous étiez passé.
Je sais, j'ai vu.
Ces moqueries sur les réseaux sociaux, vous les voyez tout de suite en sortant de l'émission?
Non, ce que je vois, c'est mon fils au téléphone qui me dit surtout ne regarde pas.
Il vous prévient?
Et après, il se trouve comme j'étais un peu... à la fois excitée et fatiguée, je l'ai re-regardée dans la foulée, puisque c'était rediffusé chez toi, enfin chez toi à LCI.
Sur LCI pendant la nuit, ouais.
Et en voyant ça, j'ai compris. Parce que j'ai compris d'abord que les grimaces que je faisais, on n'était pas obligé de les mettre à l'antenne. J'ai donné des coups de pied à Jacu aussi pour qu'il se réveille un peu.
Jacu Bizine, oui, ouais. Il s'endormait un petit peu forcément.
Bah, parce il avait été malade. Ouais. Bon,
et puis quand on est hors du match comme ça pendant si longtemps.
Et après, j'ai entendu aussi qu'on n'entendait pas. Parce que je disais, mais alors, faut avancer, mais alors. Et j'ai compris que les gens n'aient pas compris.
Et c'était à refaire, vous le referiez?
Oh non, je crois. Enfin, non, puis il faut que ça change.
Arlette Chabot, vous, c'est 2007, le débat de l'entre-deux-tours. Vous allez encore plus loin que Nathalie Saint-Cricq, vous parlez d'un cauchemar.
Oui, parce que journalistiquement, c'est vraiment le jour où vous vous dites « j'ai pas fait mon boulot ». Vous êtes là, c'est la finale, donc vous êtes super content d'avoir été choisi comme un accord des deux candidats. Voilà, ça c'est bien. Après, c'est le moment phare, donc vous dites « ah, je l'ai fait dans ma vie ». La preuve, on en reparle encore 10 ou 15 ans après, donc c'est formidable. Vous êtes très content. Après, journalistiquement, c'est une frustration terrible parce que vous ne pouvez pas être soupçonné par une amorce de questions de prendre parti pour un candidat contre l'autre et réciproquement. Si vous intervenez effectivement un peu trop longtemps, on vous dit mais laisse-le parler alors que vous avez fait 6 secondes de questions. Donc vous êtes par définition dépossédé et même si vous êtes animateur, vous devenez assez vite spectateur parce que vous les laissez, c'est eux. Alors moi au bout d'un moment, je me suis dit... bon, ben voilà, t'es là, dis-toi que c'est bien.
C'est une bonne place, c'est mieux que devant la télé.
Voilà. Puis alors après, je suis sortie, j'étais mais archi déprimée, quoi, en me disant...
Déprimée, un peu en colère aussi de vous dire...
En colère aussi, parce que je me dis, journalistiquement, on ne fait pas notre boulot. C'est vrai qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, mais attendez, vous avez été mis en cause sur ce sujet par X, alors il faudrait répondre, monsieur ou madame Y, parce que là, on va vous dire, chut, attention, attention. Voilà, il faut dire que tout est absolument codifié, calculé. En celui que j'ai vécu en 2007, il y avait même la température du studio et il y avait débat
entre
les deux côtés.
Ah, ils ne voulaient pas la même température, les deux ?
Il y en avait un qui voulait du froid.
Ségolène voulait que Sarkozy transpire pour qu'il ait l'air énervé.
Voilà, et lui, évidemment.
On est dans ces calculs-là.
Exactement, mais oui.
Et il avait bien compris que s'il était en sueur, ça faisait le type qui s'énerve.
Qui s'énerve. Voilà, donc.
19 degrés.
Et en plus, il y a un moment où les candidats.
Il y a la hauteur des sièges aussi, je crois.
La hauteur des sièges, ça, on comprend pour être.
Voilà,
ouais. Mais si vous voulez, quand vous avez quelqu'un qui fait le tour du studio avec le thermomètre pour regarder s'il y a un côté qui est plus chaud que l'autre, si les deux côtés sont de la même température et que ça prend un quart d'heure et qu'on dit « oh là là, attention, non mais ça va pas être possible, comment on fait ?» Voilà, alors on n'en est pas encore à mettre un ventilateur en dessous de la chaise d'un candidat, mais... Ou d'un moment, vous dites, ben, c'est surréaliste le truc, mais c'est très important. Voilà. Donc,
ils se parlent
tout
ou pas
codifié.
Est-ce que les candidats se parlent avant et après?
Très peu. Enfin, dans mon cas, ils sont arrivés vraiment au dernier moment, c'est genre une minute avant l'antenne, ou nous deux. Ils se sont dit bonjour. Moi, j'ai essayé de blaguer. C'est ça, avec
cette année, une blague vous nette.
Disons qu'ils n'étaient pas disposés à blaguer, à mon avis.
Voilà. Et ils se sont regardés. Ils se sont calculés, comme diraient les jeunes. Et on a senti quand même, et ça c'est pas la reconstruction a posteriori, qu'il allait y avoir du sport. C'est-à-dire que le regard, c'était pas détendu, vous voyez, c'était pas détendu du tout. Et d'ailleurs, il y avait un des conseillers qui m'avait dit, tu vas voir, ça va être une boucherie. Déjà, en arrivant avec l'idée que ça va être une boucherie,
ouais,
moi j'avais les mains qui transpiraient tellement que quand je posais le truc, il y avait des flaques. Et j'ai passé la soirée avec un Kleenex dans la main qui a été repéré par les réseaux sociaux, bien sûr. Et effectivement, la boucherie a eu lieu.
Et vous, vous aviez, à la différence d'Arlette Chabot, les plans de coupe sur les candidats. On rappelle ce que c'est, c'est-à-dire le candidat qui écoute l'autre en train de parler. Vous ne l'aviez pas, ça, en 2007, non. Arlette Chabot. Vous auriez beaucoup aimé parce qu'il disait quelque chose, ces plans de coupe, dans l'énervement, l'impatience des candidats.
Bah, ils disent forcément quelque chose parce que Nicolas Sarkozy regardait, avait un crayon entre ses mains et regardait son crayon, se concentrait sur ce crayon pour ne pas s'énerver. Puisque l'idée, effectivement, était « je ne m'énerve pas, je suis calme ». Donc, il tournait le crayon et il regardait très peu son adversaire.
On va écouter un extrait assez fort de ce face-à-face, pour pas dire duel Nicolas Sarkozy-Ségolène Royal. Rappelez que cette émission avait été suivie par 20 millions de téléspectateurs pour voir les Chabots. 16,5 millions, un petit peu moins, mais ça reste des scores incroyables. Et donc, on revient en 2017 avec cet extrait.
Alors, ce que tout le monde avait retenu de ce débat en 2007, c'est bien sûr ce moment où Ségolène Royal avait laissé éclater sa colère.
Et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous
calmez-vous,
et les parents, non, je ne me calmerai pas.
Ne montez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement,
non, je ne me calmerai pas.
Pour être président de la République, il faut être calme.
Non.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal, d'habitude calme, a perdu ses nerfs.
Non, je ne perds pas mes nerfs. Je suis en colère. Ça n'est pas pareil. Pas de mépris, Monsieur Sarkozy. Il y a des colères très saines et très utiles.
Je ne sais pas pourquoi Madame Royal s'énerve.
Je ne m'énerve pas. Je suis en
colère. Qu'est-ce que ça doit être quand vous êtes énervé, alors ?
Ségolène Royal, battue évidemment par Nicolas Sarkozy. L'agressivité de la finaliste de 2017 ne lui avait pas non plus réussi. Comme quoi la colère n'est jamais bonne conseillère lors de ce débat, non, Nathalie Saint-Cricq ?
Non, en plus, accessoirement, quand la question se pose, c'est de savoir si cette colère a été préparée.
Vous pensez que ça, c'était du pipeau ?
Pas du pipeau, c'était quelque chose qui était préparé.
Préparé, Arlette Chabot, ouais. Vous l'avez senti un peu joué, un peu théâtralisé.
C'est préparé, puisque tout était sur mettre en colère Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy restera-t-il calme ou va-t-il s'agacer? Donc elle force, elle met une colère, j'allais dire, presque en scène, pour que en face, eh bien, son adversaire, lui aussi, s'agace. Et que, voilà, tout ça fait partie des trucs où là, vous vous dites, bon, vous assistez quand même. Pour ça, je disais tout à l'heure, on passe d'acteur à spectateur.
C'était un peu au théâtre ce soir pour vous, non ?
On voit bien qu'ils ont préparé, chacun prépare des petits coups quand même avant. Quoi. Voilà, ils sont très préparés, évidemment.
Au théâtre.
Tout aussi impitoyable que le monde de la politique, celui de la télé. Que s'y est-il passé cette semaine ? La réponse dans un instant avec Germain Sastre, qui nous rejoint en studio. A tout de suite.
11h30, 12h30. On refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
À tout. Éric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
On refait l'actu télé.
Bonjour Germain Sastre.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes.
L'info télé de la semaine avec Télé Loisirs, c'est un vrai faux auquel vous allez devoir répondre, Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cricq. Jade va vous donner de vraies infos, mais aussi parfois des intox. À vous de juger, comme dirait quelqu'un que vous connaissez bien. Vous nous dites à chaque fois si vous y croyez ou pas, tout simplement. Et ensuite, Germain Sastre corrige votre copie.
Stéphane Plaza, l'animateur préféré des Français, pourrait bien présenter une émission avec son père. Vous y croyez ou pas ?
Non.
Oui, et voir l'aide, oui, pour Nathalie Saint-Cricq.
Eh bien, c'est Nathalie qui a raison, c'est vrai. Vous avez raison, selon le Figaro, l'animateur est actuellement en montage d'un programme qui s'appellera Les Plaza en vadrouille, dans lequel il partira en voyage avec son père, Raymond, 90 ans, ancien champion de vélo, direction la Martinique pour la première étape de leur périple, puis Tahiti, le Japon et l'Espagne, des destinations qui ont tout un lien avec son père, le pays de ses rêves, celui qu'il n'a jamais visité, ou encore celui où il a gagné une médaille d'or, et puis ce sera surtout l'occasion pour les téléspectateurs de découvrir les lieux visités, le mode de vie, la nourriture et bien sûr l'immobilier local.
Il ne peut pas s'en empêcher.
Forcément.
Il va faire du repérage.
Un programme tourné en partie avec le smartphone de Stéphane Plaza et des drones.
Stéphane Plaza qui présente en ce moment tous les jours sur M6 Mieux chez soi. C'est une émission pour rénover son intérieur et refaire sa décoration. À ce sujet, Arlette Chabot, c'est vrai ce que disent vos amis, que chez vous, il y a tellement d'objets que ça ressemble à une boutique d'antiquité.
Il y a des gens qui osent dire ça, donnez-moi la liste tout de suite. C'était mes amis, ils ne le sont plus à partir de maintenant.
Je suis sûr que chez vous, il y a aussi des petites figurines de pandas, les Chabots. Parce que nous avons recueilli une information exclusive sur vous grâce à Julien Arnaud. C'est le journaliste politique avec qui vous travaillez le week-end sur LCI.
Arlette est une vraie fan des pandas. Pour tout vous dire, elle a même sa coque de téléphone en panda. Elle, la moindre vidéo sur les réseaux sociaux, c'est des pandas. Je suis sûr qu'elle est prête à aller au zoo de Beauval car elle est passionnée, vous savez, des deux bébés pandas qui sont nés il y a quelques temps dans le zoo. Eh bien, elle m'en parle tout le temps. Elle adore vraiment ça. Mais je vous rassure, hormis les pandas, on parle aussi de l'actualité. On est sérieux. Voilà, je vous embrasse Arlette.
Encore merci à Julien Arnaud, qu'on retrouve également régulièrement aux côtés d'Éric Brunet dans Refait le Monde sur RTL. Alors comme ça, Arlette Chabot, une passion pour les pandas.
Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les pandas.
Une seule question, pourquoi ?
Oui, et avant tout le monde, parce que moi, ça fait un petit moment, j'étais même allée en Chine dans ce qui est la nurserie à Chengdu, des pandas. Bah oui, oui, il y a quelques années. Voilà, et c'est vrai que j'aime beaucoup ces animaux, je les trouve incroyablement fascinants.
On peut voir la coque panda de votre téléphone.
Alors, je cherche dans mon sac, mais je vous promets que c'est vrai. Voilà,
coffre-fendeur. C'est un porte-clés.
Non, non, mais faut pas exagérer non plus, je suis pas une malade mentale.
Des pantoufles.
Mais c'est vrai que
c'est un déguisement aussi.
Tiens, voilà, regardez. Vous avez d'autres porte-monnaie.
Ah, bah ça, voilà. Coque de téléphone, le petit porte-monnaie. Vous savez, nous, on aime faire plaisir à nos invités, à les chabots, donc on voulait compléter votre panoplie. Voilà. Pensez à nous et on aimerait beaucoup.
C'est un certain
alors,
panda.
Alors, qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous, parce que les gens qui nous écoutent, évidemment, n'ont pas l'image.
Je ne sais pas. Alors, attention.
Attention, ne cassez pas tout.
Le panda, non, je casse pas. Le panda est fragile.
C'est le
Ah, c'est formidable.
Alors, votre challenge, ce serait de le mettre demain soir sur votre plateau sur LCI. Alors, je ne suis pas sûr pour une soirée présidentielle, du coup.
Je
ne
suis pas sûr que ça marche très fort. Mais surtout, le problème, c'est que si je fais ça, il y a un tas de gens qui vont dire mais alors, attention, c'est une allusion à quoi?
Oui, il y a un message
est-ce
caché.
Il y a un candidat qui est-ce qu'il y a une candidate Donc, je vais devoir renoncer. Mais en revanche, je vous remercie beaucoup.
Autre info à vérifier.
Alors, Christian Clavier va bientôt jouer dans la série Un si grand soleil sur France 2. Croyez-vous ou pas cette info? Moi, non. Non.
J'ai décidé de dire non à tout.
Non, elle dit non.
Eh bien, vous avez raison de dire non, puisque c'est faux, effectivement. En revanche, l'acteur vient de terminer l'écriture d'une mini-série de 8 épisodes pour Studio Canal, le tout avec la complicité de Jean-Marie Poiré, le réalisateur des Visiteurs, une nouvelle adaptation télé du roman Au Bombeur, déjà porté à l'écran dans les années 80 par Roger Hanin et Andrea Ferréol, l'histoire d'un couple de crémiers parisiens pendant l'occupation qui profite du marché noir pour s'enrichir illégalement.
Christian Clavier, que l'on retrouvera également demain soir sur TF1 avec le film Les Visiteurs dès 21h30. J'ai bien dit demain soir, alors qu'on s'attendait évidemment à une soirée électorale. Pour la première fois de son histoire, TF1 ne fera pas de grande soirée électorale, en tout cas pour le premier tour. Ce sera sans doute différent pour le second. Ça veut dire quoi? Que ça n'intéresse plus les téléspectateurs, la politique, même plus la présidentielle?
Ça veut dire qu'on aura donné l'essentiel sur TF1 à 21h30. Et la soirée peut évidemment se prolonger s'il y a un événement.
Une surprise.
S'il y a une surprise, voilà. Et puis ça permettra aussi aux téléspectateurs, après avoir regardé le programme de TF1, de venir sur LCI où il y aura une grande, très longue soirée électorale au-delà du minuit.
Avec donc, vous notamment.
Avec moi notamment. Donc voilà. Donc après TF1.
En fait, on n'aurait pas imaginé ça. On n'aurait pas imaginé ça. On va aller sur France 2 aussi, bien sûr.
Sur France 2, service public.
Continue jusqu'à minuit et demi, vous. Hein.
Exactement. Nous faisons notre travail de service public.
Allez, dernière info, dernière intox.
Alors M6 diffusera le soir du second tour de la présidentielle le film « Y a-t-il un flic pour sauver le président ?» On y croit ou pas?
Ouais, je peux.
Eh ben non, c'est faux.
Ça
aurait été très drôle, mais c'est faux.
C'était drôle, oui.
La chaîne prévoit en effet une contre-programmation face à la grande soirée électorale du dimanche 24 avril. Elle proposera le film « La vengeance de Salazar », le cinquième et dernier volet de la célèbre saga « Pirates des Caraïbes ». Et puis on rappelle que demain soir, pour le premier tour, ce sera Astérix et Obélix au service de Sa Majesté.
Merci beaucoup Germain Sartre.
Merci à vous.
Merci Germain.
On refait la télé, ça continue juste après ça.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric Dussard.
10h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard.
Arlette Chabot, Nathalie Saint-Cricq, demain c'est donc le premier tour de la présidentielle, mais sachez qu'ici aussi, il y a un vote tous les samedis.
Et oui, nos invités doivent choisir entre fromage et dessert. Je sais, c'est une très lourde responsabilité, on va vous laisser le temps d'en prendre conscience, le temps de l'info.
Jade.
Merci Sébastien, jusqu'à 12h30, on refait la télé spéciale présidentielle avec Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cricq.
Fromage ou dessert?
Nous vous avons donc remis vos bulletins, une enveloppe fromage, une autre dessert. Dans chaque enveloppe, non pas le nom d'un candidat, mais une question.
Alors comme vous êtes deux, on a fait un tirage au sort et c'est à vous, Arlette Chabot, que revient ce choix, fromage ou dessert?
Allez, fromage.
Fromage, alors donc vous ouvrez l'enveloppe fromage et ça va être à Nathalie Saint-Cricq d'y répondre. La question est...
La politique, c'était mieux avant.
Nathalie Saint-Cricq?
Ça devait être mieux avant. Enfin, moi, j'ai fait un bouquet sur Clémenceau parce que je m'embêtais aujourd'hui, donc je trouve que c'était effectivement mieux avant, tout en sachant que les gens de caractère comme Clémenceau ne tiendraient pas une seconde aujourd'hui à cause des chaînes d'info et des réseaux sociaux et à cause de leur force de caractère. Donc, on a les politiques qu'on mérite.
Vu le niveau actuel du débat, est-ce que vous auriez envie, toutes les deux, si c'était le début de votre carrière, de vous engager sur la même voie du journalisme politique?
Je crois pas, hein.
Et voir les chabots?
J'ai un sérieux doute aussi, oui. Je m'interrogerai, oui. C'est compliqué, mais c'est vrai que l'ensemble a totalement changé. Et c'est la raison aussi pour laquelle des gens brillants, intelligents n'ont plus envie d'entrer en politique et préfèrent aller dans l'entreprise ou exercer d'autres métiers.
Le problème de rémunération.
Crise, ah oui. Oui
transparence,
mais,
totale.
Mais ça, c'est ton
vie
mauvais
privée,
esprit, ça.
Et vie privée exposée.
Oui, ça, c'est juste.
Surveillé en permanence, week-end, tout ça.
C'est pour ça que je dis que les conditions sont totalement différente.
Moi, j'ai un fiche qui est rentré dans une journaliste politique.
Et oui, qui est sur BFM TV.
Ouais, c'est pas moi qui l'ai poussé.
Vous auriez même plutôt fait l'inverse.
Oui, plutôt. Mais il a l'air assez excité tout le temps de ça, donc c'est bien.
Vous avez connu les grandes heures de la politique à la télévision, toutes les deux, notamment avec Mots croisés, à vous de juger, sur lesquels vous avez travaillé ensemble pendant 19 ans, hein, c'est ça?
48 ans, on a connu, non. On a commencé sous Vincent Auriol, ça vous ne l'avez pas dit.
Sans jamais aucune prise de bec entre vous deux?
Oui, mais pas discussion, mais pas...
Discussion mais une fois à l'antenne.
Oui.
Parce que je te parlais, j'étais en régie, je te parlais à l'oreillette, et puis t'as gueulé, t'as qu'à venir la faire l'émission, et ça s'est entendu.
Mais bon, mais franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de tandem qui fonctionne aussi longtemps, et moi j'ai la nostalgie, hein, alors pour le coup, c'était mieux avant, moi j'aimais beaucoup travailler avec Nathalie, oui, c'est
moi
sûr.
Aussi.
On dit parfois à la Charbot que vous avez un petit caractère, vous confirmez Nathalie Saint-Cric?
Oui, bah oui, mais c'est mieux d'avoir des veaux.
Elle a d'avoir des veaux.
Des veaux,
j'avais bien entendu.
Le général de Gaulle disait les Français sont des veaux. D'abord parce que je l'ai vue quand elle était directrice aussi de l'information. Résister à un certain nombre de choses, des pressions. Je l'ai vue sortir à un invité physiquement d'un plateau de soirée électorale parce qu'on ne l'avait pas invité qui se pointait. Donc elle l'a pris vraiment comme ça. Et elle l'a fichu dehors. C'est très agréable de travailler avec des gens, surtout dans le domaine politique, qui ne se font pas influencer, qui ne mentent pas et qui assument.
Arlette Chabot cache ce caractère, vous diriez, qui vous a parfois joué des tours ou pas?
Oui, sûrement, mais il y a des questions que je ne me pose pas, quoi, voilà.
Arlette Chabot, Nathalie Saint-Cric sont nos invités jusqu'à midi et demi, à tout de suite.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Eric. Jade, Eric Dussard.
On refait la télé sur RTL.
Le plateau télé de l'invité.
Alors, comme il n'y a pas que la politique dans la vie, Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cric, on va vous proposer des programmes télé qui n'ont rien à voir avec votre sujet de prédilection. À vous de choisir ceux qui vous tentent le plus.
Alors ce soir, par exemple, vous seriez plutôt The Voice sur TF1 ou Columbo sur TMC, Nathalie Saint-Cric, pour commencer.
J'ai bien peur que ce soit The Voice.
The Voice.
Vous chantez bien, Nathalie Saint-Cric, ou pas?
Je chante.
Ouais.
Mais après, je chante quand je suis seule.
Arlette Chabot, le choix.
Voilà, j'ai fait un petit coup de nostalgie, Columbo, quand on revoit, pas tous les jours, hein, mais de temps en temps, c'était quand même une série incroyable.
Magnifique.
Pas la chanson, je suis étonné quand même, hein, parce qu'on vous a déjà entendu chanter
c'est
à l'antenne.
C'est pas vrai.
Si, bien sûr, à la radio, c'était un slogan politique.
Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Vous voulez le chanter, Arlette, non?
Dedans avec les miens, dehors en citoyen. Allez.
Ouais, belle énergie. Hein.
C'est très tôt le matin, je précise, c'est pour ceux qui rêvent.
Très tôt le matin, vous chantez.
Voilà, non, mais c'était pas après...
C'était pendant le Covid.
Non, c'était pendant sa soirée.
Oui. Je veux dire, à la fin d'une soirée où j'ai fait une émission à 23h30 et j'étais arrivée dans un état assez lamentable. Pas du tout, c'était très tôt le matin.
Allez, autre choix sur votre plateau télé.
Lundi, en milieu d'après-midi, on vous propose Affaires conclues, l'émission de vente d'objets anciens avec Sophie Davant, bien sûr, sur France 2. Ou alors Les Reines du Shopping de Christina Cordula sur M6. Elle se regarde.
Affaire conclue, c'était l'émission préférée de ma maman.
Affaire conclue pour Nathalie Saint-Cric et pour vous, Arlette Chabot.
Vous m'avez dit que ma maison ressemblait à un dépôt.
Vous allez voir chez Sophie Davant, du coup.
Ce
n'est pas moi, c'est vos amis.
Vous tenez cette information, mais la logique...
On a nos fiches.
Des faux amis.
La logique veut effectivement que moi aussi, j'essaye de...
Vous allez refourguer des trucs.
Un peu mon surprise.
Et comme vous voyez les reines du shopping, ce n'est pas totalement adopté à nous deux.
Ça se voit en même temps. Ça se voit.
Non, mais justement, est-ce que lorsque l'on est une femme à la télévision, on regarde plus votre look que celui des hommes?
Ah oui.
Oh oui, forcément, oui.
Oui. Ah oui, surtout pour le critiquer.
Oui, c'est ça.
Donc en gros, faut faire simple. Vous pouvez être vieux, pas beau, et être un homme à la télé. Je ne citerai personne. Ça passera plus facilement que si vous avez un cheveu de travers, un truc. Pour les femmes, on rate rien. Enfin, ça, c'est toujours les réseaux sociaux. Hein.
C'est pas un peu pesant, ça?
Bon, d'abord, vous pouvez ne pas regarder. Moi, ça fait 6 ans que j'ai droit à un running gag sur mes cheveux. Donc, soit j'ai l'air de sortir du lit quand je ne suis pas coiffée, soit quand je suis coiffée, je ressemble à un Playmobil. Bon, j'ai droit à ça sans
intérêt. Qu'est-ce que tu préfères, finalement?
Je ne sais pas, j'alterne. C'est un coup Playmobil, un coup de sort du lit. Puis, au bout d'un moment, je trouve ça un peu ridicule. J'ai fait un papier l'autre jour, j'avais des ballerines. Ça a été un manque de respect pour le téléspectateur. Je trouve ça... ou alors la vieille, ou alors... Puis il y en a qui sont hard, quoi. Ouais, faut la foutre à la retraite. Voilà, j'ai eu ça, et je ne l'ai pas vu pour des hommes qui ont le même âge que moi.
Donc le choix de la sobriété, par exemple, c'est le meilleur moyen d'être tranquille sur le plan vestimentaire, Arlette Chabot, pour éviter toute remarque.
Oui, je crois. Alors, c'est un tout petit peu atténué, parce que c'est vrai que pendant des années, parce qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui, mais avant, c'est vrai que ce qui comptait d'abord, c'était, mais moi, puisque tu parlais de ta maman, moi aussi, ma maman, elle était, mais qu'est-ce que c'est que ce chemisier? Mais d'où tu sors ta veste? Voilà, même ma mère me disait ça. Donc je lui disais, oui, mais maman, j'étais bien ou pas bien? Non, mais écoute, ma chérie, ça fait 10 fois que je te dis de ne pas mettre cette veste, elle ne te va pas. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a, ça compte moins, et tant mieux, parce que c'est vrai que c'est insupportable que, effectivement, d'abord, les journalistes femmes ne soient jugées que sur leur coiffure, la couleur de du chemisier. Donc aujourd'hui, heureusement, ça passe après quand même dans la plupart des cas.
On a un dernier choix de programme télé pour vous.
Vendredi prochain, on vous laisse le choix entre Capitaine Marlowe, c'est sur France 2, ou Mask Singer sur TF1, cette émission où des célébrités chantent cachées sous des déguisements. Il y avait d'ailleurs eu un panda, Arlette, ah en oui, saison
ouais.
1.
Ouais, ouais, c'est
c'était pas vous à l'intérieur, c'était Julie Zenati. Alors Marlowe ou Mask Singer?
Moi, je prends Capitaine Marlowe.
Capitaine Marlowe.
Voilà, vous voyez, je suis pas une névrose absolue avec les pandas.
Oui.
Mais oui, Capitaine Marlowe, oui, parce que oh, y a un look, alors là, pour le coup, incroyable.
Ah, bah, il y a un no
c'est,
look.
Et c'est formidable. Ou un no look, ou un look, oui, au choix.
Nathalie Saint-Cric, même choix.
Oui.
Vous partagez une chose avec Capitaine Marlowe, c'est pas la chapka, c'est le franc-parler. Je me souviens, Arlette Chabot, que vous aviez déclaré lors d'une interview, je vous cite, le métier de journaliste n'est pas mieux considéré dans l'estime de nos compatriotes que les flics ou les putes. Ça aurait pu être du Capitaine Marlowe. C'était en 2010 que vous disiez, j'ai pas l'impression que ça ait beaucoup changé depuis.
Oui, c'est vrai que l'opinion est très dure. Alors à chacun de dire si c'est excessif ou pas à l'égard des journalistes. Mais les journalistes, c'est, pour beaucoup de Français, c'est la vie de la société. Voilà. Quoi, voilà.
Pour les journalistes, toujours ce soupçon de connivence d'une partie
du
public, de collusion. Vous dites fantasme. Vous, comment vous faites justement pour vous protéger de ce soupçon? Les hommes politiques, vous les voyez en dehors de vos plateaux?
Oui.
Pas du tout.
Oui, bah bien sûr. On les voit, bien sûr, mais on ne les voit pas dans des conditions privées.
C'est des déjeuners grand maximum, c'est ça?
Ou des déjeuners ou un café pour avoir des informations, ouais, ou des coups de téléphone. Le fantasme des journalistes qui passent leur vie...
La limite? Pas de dîner, par exemple?
La limite, on la connaît tous. On ne peut pas forcément la formuler. Vous pourriez dîner avec quelqu'un. Ça m'est arrivé de dîner parce qu'on ne trouvait pas de date, mais ce n'était pas un truc
déjeuner.
Dans un... Alors les châteaux, vous voyez, c'était un dîner. Voilà, ça durait une heure, c'était... Et les gens qui font des grandes tirades en disant « je ne veux pas fréquenter les hommes politiques, je ne veux pas les voir », c'est pas des journalistes politiques. Et je vais vous rajouter encore une autre chose, c'est que quand vous regardez quelquefois les journalistes culture, qui sont obligés de dire qu'un film est bien quand il est pourri, qu'ils sont obligés de dire bientôt dans les bacs votre single ou je sais pas quoi alors qu'il est nul, les journalistes gastronomiques, les journalistes, vous voyez, je peux faire la liste longue, ceux-là ont quelques avantages dans la vie. Nous, Arlette, hein, on a reçu quoi dans toute notre vie? Un sac de noix dans le Réveil, une bouteille de Calva, des d'Armagnac, de Emmanueli, c'était...
On ne peut pas dire qu'on vous ait corrompu.
On ne peut pas dire qu'on soit achetable et acheté.
De gros cadeaux. Vous tutoyez les hommes politiques, Arlette Chabot, par exemple, ou pas?
Non. Certains que je connais depuis 40 ans, je peux les tutoyer, parce que finalement, quand on fait une assez longue carrière, en politique aussi, certains ont fait une longue carrière, donc on s'est connus tout petit, et voilà... après, j'ai appris que, effectivement, notamment quand quelqu'un accède aux responsabilités les plus hautes, il vaut mieux arrêter de le tutoyer, même si on le tutoie depuis 20 ans. Voilà, mais il n'y a rien de personnel. Moi, j'ai souvent dit, je suis d'accord avec Nathalie sur les connivences qui peuvent exister dans d'autres secteurs, évidemment. Mais moi, j'ai toujours dit, si vous pensez qu'on peut m'acheter avec un café ou un déjeuner, franchement, c'est que, non, ça serait beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Donc, on ne m'achète pas. Et vous savez, il y a un truc. Il faut toujours être jugé sur ce qu'on fait. Je ne demande pas les soupçons de « mais vous, qui ?» Rien, que dalle. Quand je fais une émission, oui, Nathalie, c'est exactement la même chose. Quand vous l'écoutez, est-ce que le traitement est le même pour tous les interlocuteurs? La réponse est oui. Si quelqu'un nous prend en défaut en disant « ah oui, mais là, ta question, elle était... Ah non, elle était super complaisante. Ah bon, complaisante ?» Bon, non. Donc, tout ça, c'est de procès d'intention.
Place maintenant à un événement télé après-demain.
Oui, lundi soir, M6 va fêter ses 35 ans. On vous emmène dans les coulisses de cette émission anniversaire avec le décodeur Télé-Loisirs. Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Jade, bonjour à tous.
Bonjour Rémi.
Ce sera donc une soirée de fête, mais pour autant il faut s'attendre, dit-on, à de nombreuses scènes de ménage.
Exactement, hein, puisqu'en effet c'est la série Scènes de ménage qui sera le fil rouge de cette soirée anniversaire avec une petite particularité, vous verrez, car les animateurs de M6 joueront dans des sketchs aux côtés des comédiens habituels de la série. Vous les retrouverez, ces visages de M6, dans des rôles complètement barrés, comme Philippe Etchebest en jeune marié, ça vaut le détour. Il y a Éric Antoine en avocat, Marianne James en châtelaine un petit peu particulière. Il y aura vraiment tout le monde, Mac Lesguy, Julien Courbet, Cyril Lignac, Bernard de la Villardière, bref, toutes les grandes figures de M6. Et cette soirée sera aussi l'occasion de redécouvrir plein d'extraits de programmes cultes qui ont marqué l'histoire de la chaîne, comme Loft Story évidemment, D&Co, le Hit Machine, Graines de Star, où Jean Dujardin a débuté dans Graines de Star. Tout le monde ne s'en souvient pas, donc une soirée placée vraiment sous le signe de la nostalgie.
Merci beaucoup Rémi Jacob, je pense qu'Arlette Chabot a tout noté. Je ne sais pas, elle prend des notes depuis le début.
Non, c'est pour notre évaluation. Je n'ai pas pris de notes, je suis dégribouillée.
Le pouvoir a-t-il un sexe? C'est la question que pose Diane Ducret dans une série documentaire bientôt diffusée sur la chaîne Histoire. Elle nous rejoint dans un instant. Sexe, ego et libido, si c'est pas vendeur, ça c'est dans deux minutes.
Ça, oui.
Jusqu'à 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussart.
12h30, on refait la télé sur RTL.
Avec Jade et Éric Dussart.
Et toujours avec Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cricq et une troisième invitée qui vient de nous rejoindre. Bonjour Diane Ducret.
Bonjour.
Bonjour Diane Ducret, bienvenue. Vous êtes femme de lettres, historienne, journaliste et maintenant aussi réalisatrice d'une série documentaire à découvrir à partir du 20 avril sur la chaîne Histoire. Sujet on ne peut plus d'actualité en cette veille d'élection. Le pouvoir a-t-il un sexe ?
Bah oui, c'est vrai. Alors c'est un sujet que j'ai commencé à travailler il y a une dizaine d'années avec mon livre sur les femmes de dictateurs. J'ai toujours été très attirée par les coulisses du pouvoir et aller un petit peu au-delà de ce que la grande histoire nous enseigne. Et là, en l'occurrence, se demander qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, peut-être en France ou à l'étranger, pour avoir une réelle égalité de pouvoir et quelles sont les différences entre les hommes et les femmes au pouvoir.
Ça commence par une archive hallucinante vue de 2022. Le témoignage de Louise Weiss, féministe, qui en 1935 ose briser l'interdiction faite aux femmes de se présenter à des élections.
Eh bien, je me suis présentée deux fois. Une fois aux élections municipales et une fois aux élections législatives. Et bien, je n'avais pas le droit.
Vous n'avez pas le droit.
Mais non. Alors, les électeurs votaient quand même pour moi. J'avais des milliers et des milliers de bulletins de vote déposés à mon nom dans des urnes qui étaient des cartons à chapeau et qui étaient mises à côté des urnes officielles. Alors, la police nous a dispersés. Alors, nous avons répondu à la police en faisant parler la poudre, qui était de la poudre de riz.
Quand on entend ça, on se dit qu'on a quand même fait du chemin depuis, puisqu'on rappelle, il y aura 4 candidates pour le premier tour de cette présidentielle. Cette interdiction faite aux femmes de se présenter, ça reposait en partie sur le fait que, pendant longtemps, c'est ce que vous expliquez dans ce documentaire, une femme qui voulait le pouvoir était perçue comme suspecte.
C'est quoi le reproche,
qu'elle devienne de mauvaise mère?
Pas que. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, c'est vrai que le danger, ce qu'on ramène, on ramène toujours à la femme à sa visée essentialiste ou naturaliste, c'est-à-dire elle est une mère de famille, elle a le pouvoir. Et donc, une femme qui prend le pouvoir, elle a déjà le pouvoir de donner la vie. Quelque part, elle va échapper à tout contrôle. Mais il n'y a pas que ça. On découvre dans le documentaire que même si aujourd'hui, en effet, on est revenu à quelque chose de bien plus acceptable. Il y a des blocages psychologiques inconscients collectifs qui sont par exemple le fait d'être désirable. Pour une femme, c'est un véritable écueil. On l'a assez étudié. On a
ah oui, ça vous
là-dessus.
Revenez là-dessus.
Exactement. Vous faites le constat en effet que les femmes qui veulent accéder au pouvoir doivent généralement essayer de gommer le plus possible leur féminité parce qu'elles ne peuvent pas être un objet du désir, c'est ça.
Il y a quelque chose d'assez paradoxal. Dès lors qu'elles sont perçues comme désirables, elles ne sont pas perçues comme crédibles. Oui. Et la sanction, la loi, sont perçues comme extrêmement castratrices de la part d'une femme qu'on qualifierait de désirable.
Arlette Chabot, Nathalie Saint-Cricq, les femmes politiques, vous les côtoyez, vous les trouvez presque plus dures que les hommes ou pas, à la lueur de ce que nous explique Diane Ducret?
Non, je les trouve pareil. Mais je réfléchissais beaucoup en vous écoutant à Angela Merkel et à Margaret Thatcher. Pardon. Sur le désir, c'est vrai que ces profils de femmes peuvent faire donner confiance plus que quelqu'un qui serait trop joli, trop sexy et trop...
On pourrait citer aussi Arlette Laguiller, première femme à se présenter à une présidentielle en 1974.
Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette République d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche, et cela doit l'être, puisque je suis la seule.
Arlette Laguiller, c'est une personnalité politique qui vous a marqué, Nathalie Saint-Cricq. Pourquoi ?
Oui, parce que je l'ai trouvée... Elle faisait partie de mon quotidien quand j'étais petite, c'est-à-dire que c'est très bizarre de... Enfin, je la connaissais pas, mais je la connaissais par la télé. Je trouvais que le côté répétitif de ce qu'elle disait, le travailleur-travailleuse, et puis je l'ai vue évoluer. Après, je l'ai rencontrée, j'ai même fait une émission avec elle, et je l'ai trouvée absolument charmante, et alors que je m'attendais à quelqu'un d'un peu dur. Je trouvais que c'était quelqu'un d'assez étonnant, et puis elle savait se moquer d'elle.
Diane Ducrève, revenez
elle
aussi.
Elle sait toujours se moquer d'elle. Sixième, six fois candidate. Voilà.
Diane Ducrève, revenez aussi sur la dimension érotique du pouvoir. Un psychanalyste vous explique que les hommes politiques sont souvent fantasmés, voire érotisés. Pourquoi ils stimulent tant la libido ?
Ce qu'on nous explique, c'est qu'en effet, l'homme politique, c'est celui qui a accompli, finalement, qui est allé au bout du désir, finalement, de s'absoudre des lois pour redessiner la loi. Et donc, quelque part, en cela, il apparaît comme extrêmement désirable. C'est un sujet qui m'avait frappé, évidemment, dans l'étude des dictateurs au XXe siècle.
Oui, ça va encore plus loin, ça, ils sont des dictateurs.
Ouais, ouais. Quand vous découvrez qu'Hitler a reçu plus de lettres d'amour que les Stones, les Beatles et Madonna réunis, qui avait énormément, ça choquait les psychanalystes de l'époque, en 1933. Déjà, la psychanalyse était assez jeune, mais de découvrir que de plus en plus de patientes arrivaient avec des rêves très érotiques sur Hitler. D'ailleurs, je rappelle que les femmes ont quand même assez largement voté pour Hitler. Il y a eu 2,5 millions de votes aussi. Chez Mao ou chez Mussolini, c'est des centaines et des centaines de maîtresses. Ça fait même partie de leur conception du pouvoir.
Il y avait presque un concours, hein. Les jeunes femmes étaient présentées à chaque fois.
Alors pour Mao, absolument. D'ailleurs, il dit, finalement, il conçoit une théorie du pouvoir où finalement il régénère son pouvoir dans le corps des jeunes femmes qu'il fréquente. Alors il y a même des membres du parti qui vont aller offrir entre guillemets leur femme, leur épouse, leur fille. C'est absolument charmant. Mussolini, c'est une stratégie différente puisque lui, il reçoit énormément de courriers au Palazzo Venezia, au Palais Venise, et en fait les jeunes filles qui ont la bonne idée de mettre leurs photos, il les met de côté pour un petit 5 à 7 dans la salle de la Map Monde.
J'en reviens sur la libido et le pouvoir, deux éléments indissociable. Vous non. avez pu le constater, les hommes politiques sont-ils des dragueurs invétérés? Les avez-vous vus à l'œuvre?
En fait, le problème, c'est le pouvoir.
C'est le pouvoir qui érotise.
Pouvoir, ouais. Pouvoir, voilà, érotise. Et moi, je vais me souvenir...
Dans les deux sens. Hein.
80,
bien sûr,
dans les deux 1981, sens. Il y a eu une flopée, une immense masse de socialistes qui sont entrés à l'Assemblée. Ben, il y avait des journalistes femmes certains ont pensé que tout allait en... Quand vous êtes député, vous recevez votre petite mallette dans laquelle vous avez votre écharpe et puis des petites choses. Et ils pensaient qu'il y avait la mallette et les journalistes en même temps. C'est-à-dire qu'ils se sont précipités sur un certain nombre de jeunes femmes ravissantes en se disant... Et les filles ont dit, non mais attendez, vous êtes des malades, c'est pas comme ça. Quoi. Voilà, nous on est là, on travaille, etc. Mais dans l'imaginaire, c'était des gens qui n'avaient jamais été élus, dans l'imaginaire, ça allait avec.
Le pouvoir a-t-il un sexe ? Les deux premiers volets de cette série sont à découvrir le mercredi 20 avril à 20h50 sur la chaîne Histoire. Les autres arriveront un peu plus tard dans l'année, c'est ça ?
Oui, en octobre-novembre, justement, pour les sortir un petit peu de l'ornière de la présidentielle et les regarder de manière différente, un peu plus tranquille.
Et des interlocuteurs de grande qualité, on cite notamment Elisabeth Badinter qui a répondu à vos questions. Merci beaucoup Diane Ducrève.
Et merci aussi à vous Nathalie Saint-Cricq et Arlette Chabot. On vous retrouve demain respectivement sur France 2 et LCI pour nous faire vivre bien sûr les résultats du premier tour de l'élection présidentielle.
Et on rappelle qu'on peut vous lire également Nathalie Saint-Cricq avec ce livre sur Georges Clémenceau. Georges Clémenceau qui s'est redécouvert romantique en fin de vie. Vous racontez l'histoire d'amour qu'il a eu avec une femme de 40 ans, sa cadette. Ça s'appelle « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir ». C'est aux éditions de l'Observatoire.
Mmh. Et c'est pas un traité de soins palliatifs comme certains l'ont cru. C'est une véritable histoire d'amour avec plein de politiques, plein de blagues. Je vais essayer de rendre les choses un peu vendeuses.
C'est en plus très bien écrit. C'est extrêmement agréable à lire. Je dis pas ça parce que c'est ma copine, parce que c'est vrai.
Autre conseil lecture, votre livre qui vient de sortir, Diane Ducrève, s'appelle « Le maître de l'océan ».
Oui, chez Flammarion, écoutez, un roman pour sortir un petit peu de la crise Covid dans lequel je m'intéresse au taoïsme, mais pas seulement, à la philosophie biblique également, la philosophie de la vague pour retrouver un peu l'harmonie après ces moments de tension et cette présidentielle, puis la guerre également, retrouver la paix au sens philosophique profond du terme.
Le maître de l'océan, c'est chez Flammarion, voilà ce que vont lire lundi pour se remettre de leur week-end électoral Arlette Chabot et Nathalie Saint-Cricq, car c'est un gros week-end qui vous attend encore. Merci d'être venu nous voir.
Merci à vous.
Merci beaucoup Jade. Le replay de cette émission est sur l'appli RTL, nos bonus et vidéos sur nos comptes Twitter et Instagram. On refait la télé, revient samedi prochain à 11h30, ce sera une émission exceptionnelle puisque nous recevrons Thierry Ardisson pour son grand retour à la télévision. On vous laisse avec le journal inattendu d'Ophélie Meunier, Isabelle Carré et
et son invité aujourd'hui. Très bon week-end sur RTL.
Ciao, bon week-end, salut.
11h30, 12h30, on refait la télé sur RTL.
Jade, Éric Dussard. Bye bye.